Tous ou Rien est une émission entièrement consacrée à explorer le monde de F. Merjanov.
Une personne dont nous ne savons rien, ou presque.
Une vie réduite à quelques lignes, des lieux, Nice et la mer Noire, une date, 1970.
Et aussi quelques mots essentiels. Macédoine, nihilisme, apiculture et rien.
Mais rien de plus.
Si nous ne savons rien de son genre, nous pouvons affirmer son appartenance aux hominines.
C'est-à-dire à la vaste famille qui va de Lucie, l'Australopithèque, à Conan le barbare, en passant par Néandertal. L'humanité actuelle est ce qu'il en reste.
Dans cette émission, nous employons le terme hominine pour parler des êtres humains. Quel que soit leur genre ou leur sexe, il nous permet de contourner les contraintes grammaticales sur le masculin et le féminin. Nous précisons seulement lorsque cela est nécessaire.
Tous les mois, l'émission Tout sur Rien propose des biographies d'hominines inconnues ou des démystifications d'idoles, des explorations géographiques insolites ou des réalités sociales singulières.
Elle tisse des liens entre F. Merjanov et sa réalité avec une bonne dose de capillotraction, l'art de tirer par les cheveux.
Elle se nourrit de toute l'absurdité du monde pour mieux le vomir.
Elle réhabilite des hominines qui comptent pour rien dans l'histoire avec un grand H.
Elle reprend à son compte ces mots d'un célèbre écrivain inconnu.
Dans nos familles, on boit dans des verres à moutarde. Nous ne sommes pas des aristocrates, nous manquons d'élégance et notre race est incertaine. Mais nous n'oublions rien.
Jean Bilski. Mort anonyme de la guerre sociale.
Fin. La mère de Jean Bilski quitte son village pour Paris, car ce fils est né hors mariage vers 1954, et la société villageoise conservatrice voit cela d'un très mauvais œil. L'enfant est jugé honteux, et le père reste inconnu. Jean Bilski est élevé à la campagne par ses grands-parents, des ouvriers agricoles, jusqu'à l'âge de 11 ans, où sa mère décide de le reprendre à sa charge. Il s'installe avec elle et son nouveau parâtre dans le Var. Alors qu'il est au collège, avec deux ou trois de ses amis, il fait de petits vols dans des maisons inhabitées de Saint-Égoulf, entre Saint-Raphaël et Sainte-Maxime, lors desquelles il détrousse de l'alcool et des livres.
Dans le bon vieux temps, nos aïeux souvent arrêtaient les diligences. Oui, mais à présent, quel perfectionnement, on est devenu pur régence. Le triomphateur, c'est le cambrioleur avec sa pince, monseigneur, qui vous fait sauter les verrous de sûreté et qui tranquillement, sans le moindre boucan, fait son petit déménagement.
Nous ne sommes pas des voleurs, vraiment c'est trop bête. Nous sommes cambrioleurs, ça c'est bien plus chouette.
Chouette,
c'est nous qui fracturons et qui dévalisons les petites maisons chaque saison. Et quand on est amateur, vraiment c'est bien de l'honneur d'avoir comme visiteur ces bons cambrioleurs.
On arrive la nuit sur le coup de minuit dans une maison solitaire. On flanque au portier en train de roupiller des marrons sur la cafetière. Le bourgeois traqueur devient vert de peur, nous offre des liqueurs. On prend son argent et même ses grosses dents, ses antiquités, son vin frelaté et sa femme par-dessus le marché.
Nous sommes pas des voleurs, vraiment c'est trop bête. Nous sommes cambrioleurs, ça c'est bien plus chouette.
Chouette,
c'est nous qui fracturons et qui dévalisons les petites maisons chaque saison. Et quand on est amateur, vraiment c'est bien de l'honneur d'avoir comme visiteur ces bons cambrioleurs.
En juillet dernier, je venais de pénétrer chez une verrière peu bégueule. Mais quelle déception, rien dans la maison, je trouve la vieille toute seule. Alors elle me dit, monsieur le bandit, vous devez être des confits. Car pour vos revenus, je n'ai que ma vertu, je vais vous la donner. Je réponds sans tarder, merci, je ne veux pas vous en priver.
Nous ne sommes pas des voleurs, vraiment c'est trop bête. Nous sommes cambrioleurs, ça c'est bien plus chouette.
Chouette,
c'est nous qui facturons et qui dévalisons les petites maisons chaque saison. Et quand on est amateur, vraiment c'est bien de l'honneur d'avoir comme visiteur ces bons cambrioleurs.
Les jeunes débutants, pas assez prudents, s'en vont passer leurs vacances dans de bonnes prisons, pleines de distractions, où l'on fait de chouettes connaissances. Des banquiers sauteurs, des gens dans le malheur, députés ou sénateurs. Ce qui fait que comme ça, quand on sort de là, on a du piston et de belles relations, on ne craint plus les arrestations.
Nous sommes pas des voleurs, vraiment c'est trop bête. Nous sommes cambrioleurs, ça c'est bien plus chouette, chouette. C'est nous qui facturons et qui dévalisons les petites maisons chaque saison. Et quand on est amateur, vraiment c'est bien de même d'avoir comme visiteur ces bons cambrioleurs.
Bilski entre au lycée technique de Draguignan à l'âge de 16 ans. La famille habite dans la caravane Beau paternelle. Au bout de 2 mois, il fugue avec quelques comparses, mais sont repris peu de temps après.
Parce que mon beau-père et ma mère, c'était des malheureux. C'est les mecs qui auraient été bonnards si ça n'avait pas merdé pour eux. Pas que le fric. Oui, c'est-à-dire qu'ils vivaient dans une caravane, sous la neige, n'importe quoi.
Avant de la technique moderne.
Caravelle Air.
Un grand confort?
Oui, un grand confort. Par exemple, ce grand lit en 130, tout fait pour la nuit. Caravelle Air.
Et votre mari? Et il y a de la place pour tout.
Bien sûr. Un grand réfrigérateur pour ma cuisine, des tiroirs, des placards partout et même une grande penderie.
Caravelle Air.
À table, les enfants.
Alors, bien dormi dans votre chambre?
Ah oui?
Ah oui.
Mais c'est très grand, une caravelle Air.
Oui, on y vit à l'aise.
Jour et nuit.
Alors vraiment, vacances sans problème avec...
Caravelle Air.
Selon ses dires, il découvre l'anarchisme lors d'un petit boulot où il est chargé de vider les poubelles et de ramasser les journaux dans un centre de vacances. Dans ce contexte qui mêle journalisme et détritus, il trouve logiquement un numéro du Nouvel Observateur qui relate de multiples infos sur les anarchistes. Jean Bilski lit des livres sur l'anarchisme et organise même de petites expositions sur le sujet dans son lycée. Une nouvelle fugue, et ses parents décident de l'envoyer à Toulon, où il passe devant le juge pour enfants, puis est envoyé dans un centre d'orientation en mai 1970. Il y reste 1 mois et fugue de nouveau.
Milieu. Lors de son court passage au centre d'orientation de Toulouse, il fait connaissance de militants gauchistes maoïstes, dont certains sont éducateurs et participent à quelques tractages du Secours Rouge, une organisation de soutien aux hominines emprisonnés.
Après, j'ai revu les anars, des mecs bonards. Là, on faisait déjà des casses avec les anars. On habitait dans une piole pourrie, quartier réservé. On faisait des petits casses, comme ça.
Monsieur désire quelque chose?
Oui, des clous?
Il n'y en a pas.
Bon, bah, une pince crocodile?
Ni pince, ni crocodile.
Bah, vous avez quand même des outils?
Pas d'outils.
Ah bon? Et les meubles de jardin, c'est où?
Parce que vous voudriez qu'on fasse les outils, les crocodiles, les meubles, et pourquoi pas la layette, les sports nautiques, les produits de beauté, les sanitaires, la lingerie fine, et puis quoi encore?
Ben alors, qu'est-ce que vous avez?
Des clous.
Ah ben justement, c'est...
Non, je dis des clous parce qu'il n'y a rien ici, il n'y a rien. Vous avez pas vu le nom du magasin, là?
Non, non.
Bon, ben tenez, venez voir.
Ici, c'est pas la Samaritaine. Ah, je comprends maintenant. C'est à la Samaritaine qu'on trouve tout.
C'est vrai, on trouve tout à la Samaritaine.
Il survit ainsi en multipliant les petits casses dans les maisons dont le butin est ensuite revendu au marché aux puces de la ville. La nourriture est volée, mais le petit groupe vit comme des malheureux, Dixit Jean. Bilski est arrêté en possession de mèches à explosifs, dit cordon Bickford, et prend 1 mois et demi de prison à Draguignan. À sa sortie, il réintègre le centre d'orientation mais n'y reste que 8 mois. En novembre 1971, il fugue et tente de survivre, mais le manque d'argent est problématique. En février 1972, armé d'une mitraillette Sten, il fait son premier braquage.
Je pensais que je pouvais pas le faire, parce qu'il y avait plein de monde. En fait, j'ai pas peur de me faire descendre. Ce que j'ai peur, c'est le contact avec les flics. De me faire choper, sans arme. Tant que je peux tenir une arme, me descendre ou descendre, ça va. Ça, je m'en fous. Je veux absolument pas être arrêté, aller en tôle, la mort lente et tout.
Je suis postiché, j'ai les mêmes cheveux que Dalida, la barbe de Fidel Castro et un gros Beretta, la gabardine de Colombo, les lunettes d'Elton John et la dégaine distinguée des frères Dalton. Les lieux sont repérés, 9h devant la banque, devant le sas, je sonne et je rentre. Je fais la queue comme tout le monde, mes potes m'attendent de rue plus loin, je suis opérationnel dans 30 secondes. Qu'est-ce que le vigile, qui me regarde bizarre, m'approche vers lui et je lui dis qu'est-ce que t'as connard. Je mets un coup de plafond et des sous de mon arme. Que la grosse lutte se trouve derrière le comptoir. Ferme ta gueule, on va pas en faire toute une histoire. D'ailleurs, hey, ouvre le sas, y'a mes potes sur le trottoir. Genre les sacs de sport, en attend record. Plus juste l'oseille, et dans 5 minutes je sors. Je rentrerai dans la banque sans faire toc, toc, toc.
Sans très intouchable, ferme ta gueule, c'est un hold up.
On braque, charge les sacs et on décolle.
La main sur la détente, tu seras pas seul à embrasser le
sol. On fait notre entrée dans la banque sans faire toc, toc, toc.
Sans très intouchable, ferme ta gueule, c'est un hold up.
On braque, charge les sacs et on décolle.
La main sur la détente, tu seras pas seul à embrasser le sol. En main, tout est ok. Je peux prendre peu d'artifice. Concentré dans nos pensées. Remarque l'entrée des artistes.
Artiste cagoulé, je donne l'ordre que tout le monde se mette à terre. Je tire une fois en l'air. En c'est l'air. Bon, on a le feu vert.
Des boules sur directeur, on vient relever les pompeurs. On va pas passer une heure à attendre les inspecteurs. Assez parlé et passons aux choses sérieuses. J'ai pas le temps de m'attarder, chaque seconde ils sont précieux.
Pendant qu'on est dans les temps, je m'occupe de l'argent de surface. Du travail de pro, t'inquiète, on laissera pas de traces. On plie les sacs à bloc et là, la pourriture veille. Si ça tourne au drame, on va laisser des cervelles.
Direction la salle des coffres, j'emmène le directeur au sous-sol. Mais là, y'a un petit problème, ce bâtard veut pas cracher le coffre. Obligé de le séquestrer, y'a envie de tempérer. Il a fallu que tu fasses monter des feux de ta famille côté.
Tu prends en otage un client qui a voulu faire le justicier. Canon sur la tempe, on fait plus ça. Sinon, je vais tuer le soldat pour ça risquerait de finir en boucherie, y'a plus de temps à perdre, on se dirige vers la sortie.
J'en monte les escaliers, les salles chargées, on peut y aller. Je crois que les gars, on a touché un très gros paquet de billets. Mais j'allais oublier, je prends le directeur pour couvrir la foule. Ne paniquez pas, on va lâcher sur le périph'.
Okay, on se barre, dans les sacs plus de 100 bars. Je préviens le D, le M qui sont restés à l'écart. À la sortie de la banque, on se précipite vers la planque. Okay, le D est prêt à partir avant qu'il y ait une descente. Y'a rien qui manque,
non.
Le D est là,
ouais.
Le M est là,
ouais.
La pourriture,
ouais.
Le colonel,
ouais.
Ouais, bon, vas-y, ouais. On se barre. Vas-y, tous à la voiture, les mecs. On fait notre entrée dans la banque sans faire toc, toc, toc.
On fait un touchard, ferme ta gueule, c'est un hold up.
On braque, charge les sacs et on décolle.
La main sur la détente, tu seras pas le seul à embrasser le sol.
On fait notre entrée dans la banque sans faire toc, toc, toc.
On fait un touchard, ferme ta gueule, c'est un hold up.
On braque, charge les sacs et on décolle.
La main sur la détente, tu seras pas le seul à embrasser le sol.
Après une entrée surprenante, une sortie un peu fracassante. Mes membres en attente, dans l'attente, une couille imminente. Garde le contact des mon one.
L'hypothèse donc, putain ça.
Juste assez de temps pour finir ma blonde. Ils ont l'air chargés. Je pense que tout a marché. Rail au volant, je vous conseille de vous accrocher. Frein à main, tête à queue, grâce avec mes complices. C'est R6, compte 1, 2, 3, cash, j'aime ta police. Contrôle volant, sans avoir fait contrôle technique. Mais cette fois-ci,
moi je pousse dans le tas.
Si ça se complique,
le M pour le D première à droite, tu pas 500 mètres.
Y'a de la pouca ou quoi là?
CPD, boucle le périmètre.
Chronomètre à la main, fusil à portée de main. Personne nous freine, car par les quais, moi je connais le chemin.
Vas-y, bombarde derrière. Derrière. Vas-y, bombarde.
On fait notre entrée dans la banque sans faire toc, toc, toc.
Sans très intouchable, ferme ta gueule, c'est un hold up.
On braque, charge les sacs et on décolle.
La main sur la détente, tu seras pas le seul à embrasser le sol.
On fait notre entrée dans la banque sans faire toc, toc, toc.
Sans très intouchable, ferme ta gueule, c'est un hold up.
On braque, charge les sacs et on décolle.
La main sur la détente, tu seras pas le seul à embrasser le sol. Sans très intouchable, ferme ta gueule, c'est un hold up.
On braque, charge les sacs et on décolle.
La main sur la détente, tu seras pas seul à embrasser le sol.
On fait notre entrée dans la banque sans faire toc, toc, toc.
Sans très intouchable, ferme ta gueule, c'est un hold up.
On braque, charge les sacs et on décolle.
La main sur la détente, tu seras pas seul à embrasser le sol.
On fait notre entrée dans la banque sans faire toc, toc, toc.
Sans très intouchable, ferme ta gueule, c'est un hold up.
On braque, charge les sacs et on décolle.
La main sur la détente, tu seras pas seul à embrasser le sol.
On fait notre entrée dans la banque sans faire toc, toc, toc.
Sans très intouchable, ferme ta gueule, c'est un hold up.
On braque, charge les sacs et on décolle.
La main sur la détente, tu seras pas le seul à embrasser le sol.
We'll be right back.
Morovache et les trois points tatoués en triangle sont alors l'équivalent de l'actuel ACAB, All Cops Are Bastards. Pendant un an, il grenouille vaguement avec les Mao de la cause du peuple, en qui il voit des espèces d'anarchistes. Parmi le groupe de militants qu'il fréquente, il est le seul ouvrier. Et traité comme tel, avec toute la déférence que les militants gauchistes affectionnent vis-à-vis de ce qu'ils appellent la classe ouvrière. Il trouve un travail de manœuvre sur les chantiers navals de la Seine-sur-Mer, près de Toulon, et y reste presque une année entière avant de se faire licencier pour sa participation à des grèves. Tout en côtoyant ces militants politiques qui ne cautionnent pas son acte, il effectue seul le braquage d'une petite banque dans laquelle il rafle 20 000 francs, deux briques, soit 2 millions d'anciens francs. Pour ce faire, il s'arme d'une imitation de M16 qu'il modifie, et sans le savoir, le rend inutilisable. Il fuit l'agence qu'il vient de braquer avec sa propre mobylette. En couverture, il se fait embaucher à la Ciotat et fait une formation de soudeur pendant 6 mois, puis travaille seulement 2 mois avant de quitter cet emploi. Il tombe malade et part 6 mois dans un sanatorium.
Mais là, je suis tombé malade. J'étais tubard. Je suis allé faire 6 mois de sana. Il y avait un infirmier bonnard qui connaissait soi-disant Puigantiche et tout ça. On a discuté un peu. J'ai commencé à réfléchir. C'est là que m'est venue l'idée des centrales nucléaires, des trucs comme ça. Quand je suis revenu de là-bas, j'avais pris des distances. Tu vois, j'étais vachement copain avec les Mao, c'était des mecs bonards. Mais j'avais des idées autonomes. Je savais vraiment ce que je voulais faire.
En plein chagrin, après une séparation amoureuse, il participe à un braquage dans le Gard, à Uzès, avec un comparse. Ils n'ont pas le temps de se faire ouvrir le coffre et doivent se contenter de la caisse qui contient 50 000 francs. Ils s'enfuient en voiture, une Citroën DS, type Citroën Fantomas, et prennent en otage un des deux motards de la police, alors à leur poursuite. Ils volent une voiture.
On a fait descendre le mec, on a mis le flic au volant, on est parti. On a tiré quelques balles, derrière, sur eux. On les a pas eus, ils nous suivaient à 50 mètres, toujours la même distance. On est sorti, on ne savait pas où aller. On lui a dit « Nous on s'en fout, on ne veut pas aller en tôle, on veut canner. Si tu veux t'en tirer, tu te démerdes à les semer, tu connais la région. » Le mec s'est démerdé quoi.
Après avoir abandonné leur otage, ils rejoignent Avignon, puis se séparent. Jean Bilski se change, coupe ses cheveux et passe par Orange pour retourner jusqu'à Toulon. Son comparse disparaît avec l'argent. Pour vivre, il enchaîne quelques braquages, mais la plupart des coups qu'il tente de mettre en place restent sans lendemain. Son idée est de dévaliser un fourgon ou un casino. Il imagine même enlever un banquier ou l'écrivain Jean-Édard Nalier, qu'il n'a pas l'air d'apprécier. Issu de la bourgeoisie militaire par son père et industriel par sa mère, Jean-Édard Nalier se finance une carrière de polémiste journaliste-écrivain, dans laquelle il joue le rôle de l'intellectuel rebelle et maudit. Mélange de provocation, de vantardise, de polémique et d'amertume, le personnage se résume très bien par le nom du journal qu'il anima pendant des années, l'Idiot International. Dans son interview, Jean Bilski fait référence au voyage de Jean-Édard Nalier au Chili en 1973, parti pour y remettre 3 000 $ à la résistance à Pinochet. Il ne remet qu'un tiers de la somme, prétextant un rapt. Il sera déclaré sur son compte par des organisations militantes. Qu'il soit désormais clair que M. Allier ne peut se recommander d'aucun militant, d'aucune organisation de gauche ou d'extrême gauche. Les braquages de banque ne rapportent pas assez, une fois le butin réparti entre les braqueurs. Jean Bilski espère réaliser un gros coup, afin de ne plus avoir à prendre de risques toutes les 2 semaines pour de petites sommes. À Narbonne, il braque une agence bancaire, mais le caissier résiste un peu et l'équipe perd du temps. Il échappe de peu à la capture. Dans sa fuite, il braque encore une épicerie et parvient à se changer. Il fuit à pied par les petites rues narbonnaises, puis se pose dans un bar. Le coup est réussi. Lors de ses braquages, il a souvent une fausse grenade avec lui, pour impressionner. Et il se targue de n'avoir pris que des flics en otage.
La police veille. Gardez votre sang-froid. Les jours de Fantomas sont comptés. C'est le commissaire Juve qui vous le dit. Rassurez-vous, rassurez-vous.
Fantômas n'est qu'un assassin comme les autres. Un homme comme vous et moi, mesdames et messieurs. Des crimes, bien sûr, il en a commis, mais le nombre de ses victimes est dérisoire comparativement à celui des accidents de la circulation.
Il a fait sauter des avions, il a fait dérailler des trains.
Mais les assassins du volant sont beaucoup plus dangereux, et cette route du crime est loin d'être coupée. Quoi qu'il en soit, tu peux trembler, Fantômas. Tu peux bien avoir 100 visages, tu n'auras jamais qu'une seule tête. Ne la relève pas trop, elle finira par tomber, car elle me reviendra, Fantômas.
Il se dit suicidaire depuis des années, sans être jamais passé à l'acte. Les raisons sont multiples et l'argent n'est pas le seul problème. Celui pour qui c'est plus difficile de draguer une nénette que d'attaquer une banque se dit plein d'envie qu'il sait irréalisable.
Mettons, je vais me mettre sur les centrales nucléaires. Je vais imaginer tout un truc, super compliqué, avec un groupe qui va rester vachement uni, qui va faire une communauté super pendant un an. Ou alors, bon, l'autre jour c'était les fachos. On a été obligé de braquer les fachos de Nice. Bon, pendant 6 mois, on va faire un truc vachement bien organisé, niquer les fachos complètement parce qu'ils sont super puissants à Nice. Enfin bon, c'est des trucs complètement irréalisables, qui tiennent pas compte des autres gens. C'est des trucs qui sont à ma mesure.
Concrètement, à Nice, un ami de Jean Bilski se fait frapper par 2 néofascistes. D'après lui, les plus énervés des militants d'extrême droite aiment à se livrer à du tabassage de gauchistes ou autres clampins sans que cela n'entraîne de représailles. Il le déplore et est bien décidé à venger son ami. Ses propos sous-entendent que vengeance il y eut, mais sans donner plus de précision. Jean Bilski rêve encore, mais il lui manque 500 briques pour mener à bien le projet qui lui tiendrait le plus profondément à cœur.
Parce que moi, ce que je voudrais, c'est monter un truc. On prend un terrain pourri, qui a été détruit complètement, brûlé même, si possible. Avec les moyens qu'on a, on peut le remettre d'aplomb. Ça prendra bien 5 ans, 10 ans. On fait un truc super chouette. On est une vingtaine de mecs et de nénettes qui s'entendent vachement bien avec les gens qu'il y a autour, qui remettent le truc d'aplomb, biologique, avec recherche, en travaillant le moins possible, en essayant d'automatiser le truc, parce que je ne veux pas revenir à l'heure des choux, je veux mettre un tracteur. Au bout de 10 ans, on est bien avec les gens, on voit le rapport de force, on dit « Bon, maintenant, il n'y a plus un flic qui rentre ici, plus de contrôle pour le shit, des trucs comme ça, je sais pas. Il n'y a plus un flic qui rentre ici. Il se fera descendre s'il rentre. S'il y a un mec recherché, il peut venir ici. S'il y a quelqu'un qui nous bousille ce terrain qu'on a remis d'aplomb. Une usine qui nous fait chier, une centrale nucléaire, on l'a fait sauter. Et le dire ouvertement. Je pense qu'il serait bien niqué. Si on a bien calculé notre coup, on peut rien nous faire. »
Pourquoi ne pas prendre un bon jour d'avance?
L'argent lui manque pour ce projet, mais aussi la vingtaine de complices pour mener à bien son utopie. Pour autant, il se dit lui-même incapable de vivre en communauté sans chercher à exercer du pouvoir, à vouloir tout contrôler, par peur bien plus que par avidité. Il est bien conscient aussi que l'argent fausse les rapports entre les hominines, entre celles qui en ont et les autres. Alors il prend la décision de se suicider. Mais il compte pas partir tout seul. Pour lui, il doit tout faire pour protéger ses proches de ses actes futurs, pour ne pas les impliquer malgré elle, et mettre fin à ses jours avec panache.
Je vais faire un truc pas possible. Si possible avec des gags, faire mettre de la pop musique, ou faire distribuer de l'argent. Parce que moi, je me dis, il n'y aura pas de rond dans la caisse. Je compte pas partir. Je vais rentrer dire. Je veux parler au commissaire Tolins. Un commissaire fou, d'ailleurs. Un cow-boy. Je veux le bureau du sous-directeur. Et là, je vais prendre tout le monde en otage. J'essaierai que les mecs soient le mieux possible. Je préparerai un truc pour qu'ils comprennent bien que moi, je veux mourir. Mais qu'eux, ils doivent me donner envie de vivre. Parce que si je meurs, la grenade que j'ai en main va exploser. S'ils m'énervent, je me suicide. Sur un coup de tête. En plus, ils ne peuvent pas me faire durer. Parce que si je m'endors, une grenade, ça a vite fait de glisser d'une main. Je prendrai 300 millions et j'essaierai de faire distribuer le reste ou le brûler, pourquoi pas.
Dans son plan, il a prévu de parvenir à s'échapper, mais espère vraiment que la police sera suffisamment efficace pour l'abattre lors de sa fuite. Ses chances de survie sont quasi nulles.
Les trucs marxistes, tout ça, je les ai assimilés. Mais ce qui domine chez moi, c'est le reste.
Dans le courant de l'année 1975, il rencontre un journaliste de Libération qui fait des enquêtes sur les jeunes braqueurs fous. Celui-ci enregistre Jean Bilski pendant une heure et demie, où il se raconte à travers une interview. Il parle de son parcours, de ses espoirs et dépressions, de sa vie et de ses projets suicidaires. Il se livre honnêtement sur ses propres limites, analyse sa situation de prolétaire et interroge sur l'utilité de l'action politique pour répondre à l'immédiateté de quelqu'un qui veut vivre ou trouver une raison de vivre. D'après le journaliste, Bilski revient le voir 3 jours plus tard pour lui annoncer un changement de programme.
Tout ce que je t'ai raconté sur l'enlèvement, cela ne tient plus. Les armuriers à Paris sont des cons. Je n'ai pas eu l'arme que je voulais, et puis j'ai une rage de dents. Je crois que je vais tout simplement me tirer une balle dans la tête.
La cassette audio de l'entretien est mise dans un tiroir. Sans suite. Plus de nouvelles de Jean Bilski.
Il y a beaucoup de monde dans la rue Pierre-Charon. Il est 2h du mat, le braquage a foiré. J'ai une balle dans le ventre, une autre dans le poumon. J'ai vécu à Sarcelles, je crève aux Champs-Élysées. Je vois la France entière du fond de mes ténèbres. Les charognards sont là, la mort ne vient pas seule. Putain, j'ai la connerie humaine comme oraison funèbre. Et le regard des curieux comme unique linceul. Même le boulanger du coin a quitté ses fourneaux pour s'en venir cracher sur mon corps déjà froid. Il dit, je suis pas raciste, mais quand même les bicots. Chaque fois qu'il y a un sale coup, bah faut qu'ils en soient. Moi monsieur, je vous signale que j'ai fait l'Indochine. Tiens un ancien para, quelques arrivistes. Ces mecs là c'est de la racaille, c'est pire que les Viet Minh. Faut les descendre d'abord et discuter ensuite.
Et c'est bien fait pour ta gueule. Tu n'es qu'un petit salaud. Ça ne comportera pas le deuil. C'est bien fait pour ta peau.
La mort ne vient pas seule.
C'est bien fait pour ta gueule. Tu n'es qu'un petit salaud. Ça ne comportera pas le deuil. C'est bien fait pour ta peau.
Charognard.
Les zonards qui sont là vont se faire lyncher sûrement s'ils continuent à dire que les flics assassinent. Qu'on est un être humain même si on est truand. Ma mise à mort n'a rien de légitime.
Et s'ils prenaient ta mère comme otage ou ton frère?
Dis un père béret basque, un jeune besoin de cuir.
Si c'était ton fils qui était couché par terre, le nez dans sa misère.
Répond le jeune pour finir. Et monsieur Blanc Cassis continue son délire. Convaincu que déjà mon âme est chez le diable. Que ma mort fut trop douce, que je méritais pire. J'espère bien qu'en enfer je retrouverai ces minables. Je suis pas un héros, j'ai eu ce que je méritais. Je suis pas à plaindre, j'ai presque de la chance. Quand je pense à mon pote qui lui n'est que blessé et va finir ses jours à l'ombre d'une potence.
Et c'est bien fait pour ta gueule. Tu n'es qu'un petit salaud. Ça ne comportera pas le deuil. C'est bien fait pour ta peau.
La mort ne vient pas seule.
C'est bien fait pour ta gueule. Tu n'es qu'un petit salaud.
Ça ne comportera pas le deuil.
C'est bien fait pour ta peau.
Y'a beaucoup de monde dans la rue Pierre Charon. Il est 2h du mat, le braquage a foiré. J'ai une balle dans le ventre, une autre dans le poumon. J'ai vécu à Sarcelles et je crève aux Champs-Élysées.
Elle n'a même pas 17 ans, cette fille qui pleure en pensant qu'à ses pieds il y a un homme mort.
Et c'est bien fait pour sa gueule.
Qu'il soit flic ou truand, elle s'en fout, sa pudeur. Comme ses quelques larmes me réchauffent le corps.
Ce n'est qu'un petit salaud.
Il y a beaucoup de monde dans la rue Pierre Charon. Il est 2h du mat, mon sang coule au ruisseau.
On portera pas le deuil.
C'est le sang d'un voyou qui rêvait de millions.
J'ai des millions d'étoiles au fond de mon caveau.
J'ai des millions d'étoiles au fond de mon caveau.
Et c'est bien fait pour ta gueule. Tu n'es qu'un petit salaud. On portera pas le deuil. C'est bien fait pour ta peau.
On mord bien passé.
C'est bien fait pour ta gueule. Tu n'es qu'un petit salaud. On portera pas le deuil. C'est bien fait pour ta peau. Et c'est bien fait pour ta gueule. Tu n'es qu'un petit salaud. On portera pas le deuil. C'est bien fait pour ta peau.
La mort bien passé.
Et c'est bien fait pour ta gueule. Tu n'es qu'un petit salaud. On portera pas le deuil. C'est bien fait pour ta peau.
Charognard. Renault, laisse du neuf. Bon, Pete, il a un peu plus speed. Mais t'as vu le lyrics, il a pas pris une ride. Au fond de mon caveau.
Des buts. Le matin du 14 mai 1976, boulevard des Italiens à Paris, Jean Bilski s'approche, une arme à la main près d'une voiture. Il vise l'un des deux occupants, tire et le tue. La passagère est blessée. Bilski contourne la voiture et se tire deux balles dans le corps, une dans le ventre, une dans la tête. Il meurt de ses blessures. Sa cible est le président du Crédit Lyonnais, Jacques Chêne, depuis 1970, puis PDG depuis 1974, très impliqué dans un récent conflit social et encore en froid avec les syndicats. Hormis son P-38 et une fausse grenade, la police trouve sur Bilski ses papiers d'identité. Aucune revendication.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Trois titres à cette édition. D'abord, l'augmentation officielle du prix de l'essence. Augmentation à partir de lundi 0h. Je vous donne les chiffres tout de suite, comme ça on sera débarrassé. Le prix de l'essence ordinaire sera de 1,82 francs et le prix du litre de super 1,96 francs. De son côté, le prix du gazoil est augmenté de 1 centime et passe à 1,26 francs le litre. Et le fuel sera désormais payé 69 francs l'hectolitre. Deuxième titre, la catastrophe du pétrolier échoué en face du port de la Corogne. La question se pose ce soir de savoir si l'énorme nappe qui s'échappe des soutes du pétrolier peut se diriger vers les côtes françaises. Troisième titre, pour vous signaler une page spéciale à la fin de cette édition, une page consacrée aux problèmes posés par le livre de Jean Ziegler, La Suisse en question. Mais auparavant, l'assassinat du président directeur général du Crédit Lyonnais ce matin à Paris, M. Jacques Chêne. M. Jacques Chêne a été abattu devant le siège de sa banque ce matin. Il était âgé de 56 ans, père de 4 enfants. Le PDG du Crédit Lyonnais était en place depuis juillet 70. L'identité, la personnalité de son assassin, Jean Bilski, ne permet pas encore de répondre à la question « Pourquoi a-t-on assassiné M. Jacques Chêne ?» Voyons les faits.
9h45. Comme tous les matins, la déesse du PDG du Crédit Lyonnais s'arrête ici, boulevard des Italiens, devant le siège de la banque. À l'arrière, M. Chêne et sa femme, qui exceptionnellement aujourd'hui, l'accompagnent au bureau. Le banquier sort de sa voiture, un jeune homme se précipite, un pistolet P-38 à la main. Il tire deux fois. Le premier coup, tiré à bout portant, atteint le banquier en pleine poitrine. Le second place Mme Chêne au cou. Aussitôt, le meurtrier regagne le trottoir, s'agenouille, et là, fait extraordinaire qui laisserait supposer qu'il s'agit d'un déséquilibré, il se suicide de deux balles, une dans le ventre, une dans la tête. Le PDG du Crédit Lyonnais, lui, est mortellement blessé. Il expire quelques secondes après l'arrivée des secours dans l'ambulance. Madame Chen est transportée immédiatement à l'hôpital. Elle n'est que légèrement blessée. Ses jours ne sont pas en danger. En fouillant la sacoche du meurtrier, les enquêteurs découvrent une grenade désamorcée, inoffensive, et des papiers d'identité au nom de Jean Bilski, 22 ans. Les mobiles de son crime restent encore mystérieux. Qui est Bilski? Ce n'est pas un employé de la banque. Ce n'est pas non plus un familier de la victime. Mais très vite, l'enquête permet de cerner sa personnalité. Exact.
Il est affiché comme anarchiste parce qu'il avait été arrêté à plusieurs reprises au cours de sa jeunesse, pour des peccadilles d'ailleurs, des outrages à agents, tout de même pour une détention d'explosifs et une détention d'armes. Et à l'occasion de ces arrestations, il avait revendiqué l'appartenance à un groupe anarchiste. Auquel il appartenait d'ailleurs depuis plusieurs années, puisque dès l'âge de 16 ans, hein, il était connu comme militant dans ces groupes anarchistes du côté de la Ciotat, de la Seine et de Toulon.
Et on sait à quel groupe il appartenait ?
Non, vous savez que les anarchistes n'ont pas de structure hiérarchisée, et que ce sont des petits groupuscules, chacun agit pour son compte, et il n'y a pas de nom particulier, ils se groupent à deux ou trois, mais il n'y a pas de nom particulier pour chaque groupe.
Est-ce que les renseignements que vous possédez sur lui à l'heure actuelle vous permettent de dire que Bilski était déséquilibré ?
Déséquilibré, c'est difficile à affirmer, mais on peut dire tout de même que c'était un exalté d'après son passé, que c'était un exalté qui a certainement eu l'esprit troublé par l'idéologie anarchiste.
Donc le mobile est politique ?
Très vraisemblablement, en raison de la personnalité de l'individu.
L'enquête incrimine les anarchistes. La presse y va de son couplet sur la dangerosité et la délinquance de la jeunesse, où reprend les divagations policières qui parlent du milieu anarcho-gauchiste toulousain. La Fédération anarchiste fait savoir qu'elle n'a strictement rien à voir avec cette histoire. Pour rompre, selon ses dires, avec le discours que l'affaire Bilski déclenche, le journal Libération fait paraître dans ses éditions du 19 et du 20 mai 1976 la retranscription de l'entretien donné par Bilski l'année précédente. L'enquête policière conclura à l'acte individuel d'un jeune anarchiste de 22 ans. L'éditorial de Libération sur « L'affaire du boulevard des Italiens » signé Serge Julie se sent obligé de rappeler que
« Son assassinat ne mène nulle part, il ne sert à rien. Bilski cherchait un symbole, il est tombé sur un homme, sur Jacques Chen. Ça ne changera rien à la société, sauf pour Bilski, pendant quelques secondes, celles qui ont précédé son suicide. »
Ce que n'aurait pas démenti Jean Bilski.
Je veux tout ou rien.
Après toutes les réponses à contre-temps et la jeunesse qui se fait vieille, la nuit retombe de bien haut. Dans ce monde qui ne vit que d'illusions entretenues par le secret public, chaque acte ou chaque événement est dissimulé sous le halo de brume de la raison économique qui masque la réalité. Alors que meurent chaque jour des hommes qui n'ont jamais vécu, les professionnels de l'illusion s'étonnent encore qu'un jeune homme ait pu refuser avec violence le lot de misère que la survie lui ménageait. La réalisation d'un acte poétique apparaît à leurs yeux inexplicable dans son éblouissante évidence. Un scribe accroupi devant la marchandise qui lui permet de débiter quotidiennement ses âneries sur les ondes radiophoniques a déclaré « Cet acte gratuit nous échappe. Il est vrai que ce qui est gratuit, et surtout le crime, ne peut qu'échapper à l'entendement de ces ronds de cuir de l'information marchandise. » Ce qui ne passe pas au crible de la rationalité économique et du domaine de l'utopie. Car s'il est évident pour tout le monde qu'un cadre quadragénaire tire à la carabine sur ses voisins le jour où il découvre l'ampleur de sa propre misère, il n'est pas encore clair pour ses pistes copies qu'un jeune homme puisse tirer le premier sur ce qui représente pour lui la question sociale. En frappant un représentant de l'économie, Bilski a déjà fait progresser la conscience. Mais pas plus que la mort d'un dirigeant politique ne signifie la destruction de l'État, la mort d'un banquier ne signifie la fin de l'économie. Bilski n'a fait que jeter avec rage sa vie perdue au visage du vieux monde. Révoltez, encore un effort et vous serez des révolutionnaires. Le sang des banquiers ne suffit pas à étancher notre soif. C'est l'économie qu'il faut saigner à blanc. C'est le vieux monde qu'il faut abattre. Nous ne connaissons pas d'autre beauté, d'autre fête que celle qui détruit l'abus des banalités quotidiennes et des sentiments truqués. Le criminel rompt la monotomie et la sûreté quotidienne banale de la vie bourgeoise. Marx. Les délits ne nous importent pas, si ce n'est celui qui les contient tous, l'insurrection. C'est cette fête qui contient l'unique sérieux. Signé des prolétaires.
Tract trouvé dans la rue à Angoulême et paru dans Union ouvrière numéro 18, juin-juillet 1976.
Bravo.
Ouais, c'est pour tous les mecs au bord du gouffre, écrasés dans l'engrenage, frère. Hey. Je sais que ça fait longtemps que tu penses à tuer des gens, que tu penses à brûler le banc, qui t'a rendu si méfiant, quitte à te faire des innocents. Histoire de passer le temps, je comprends que t'es la rage quand les rappeurs font que se masser le gland. Grande pustule, sens-tu que je tue, sens-tu que je tue, sens-tu que tue. T'as du mal à t'imaginer serein dans le futur. Bande sur des tranches plus turques, mais tu rentres plus thunes, déserte le campus, tu crois pas vraiment qu'un diplôme va rattraper ta vie de môme, effacer le sang sur le mur. Toutes les patates que t'as pris, tous tes points de suture. Quand t'as compris que le monde est à toi, tant que tu suces. Mais c'est pas ton projet, t'as aucun projet. T'es résolu d'avoir des résolutions l'année prochaine. Tu te reconnais dans rien, t'es seul devant leur certitude. De fils de père, fils de pute, ça donne l'air têtu. Mais t'en as rien à foutre, la vérité c'est ça. Aucun de ces fils de pute n'a mérité d'être là. Tu t'enfonces, t'aimerais assouvir tes pulsions des membres. Tes buissons géants camouflent plus ta répulsion des gens. Shoot un ministre, shoot un ministre, shoot un ministre, shoot un ministre. Si tu veux quelqu'un, frelon, shoot un ministre. Tu fais peut-être un truc bien, frelon, shoot un ministre. Trop de corrompus, frère, et foule pas sur les bons. Trop de pédophiles, frère, et foule pas sur les bons. Shoot un ministre, shoot un ministre. Si tu veux quelqu'un, frelon, shoot un ministre. Vas-y, fais la gueule, check ta mal, petit. Vas-y, fais la gueule, jamais à l'heure, mais c'est logique quand t'en as rien à branler. Tu vois ta vie comme un violeur dont les mains s'avancent. Et tu vois qu'une chose à faire, c'est fuir, espérant qu'elle s'essouffle. Mais t'encaisses les coups enchaînés, tu cries, baisse-les tous. C'est ton refrain préféré pendant ta prise de drogue, ivre mort. Mec, ce fils de porc piège des foules, mais je vais pas te faire la guerre. T'es pas le premier mec amer qui lâche l'affaire pour pas se mettre une balle dans la tête. Arrête, t'es rassasié, t'aimerais bien qu'on t'aide, mais t'as plus de réseau. Faudrait que tu lèches des cavus, c'est trop. Dans les abysses, tu baisses les yeux pour pas voir tes parents. Tu vois que la peur dans leur regard sur leur fils défaillant. L'enfant de passant, très passant, qu'attendent le coup de grâce. Trou de balas, on comble leur carence avec des shoes Nike. Et t'en as rien à foutre, la vérité. C'est ça, aucun de ces fils de pute n'a mérité d'être là. Tu t'enfonces, t'aimerais assouvir tes pulsions des membres. Tes buissons géants camouflent ta répulsion des gens. Shoot un ministre, shoot un ministre, shoot un ministre, shoot un ministre. Si tu veux quelqu'un, frelon, shoot un ministre. Tu fais peut-être un truc bien, frelon, shoot un ministre. Trop de corrompus, frère, et foule pas sur les bons. Trop de pédophiles, frère, et foule pas sur les bons. Shoot un ministre, shoot un ministre. Si tu veux quelqu'un, frelon, shoot un ministre. La télé te représente pas, eux non plus sans pas. T'es dans ce bal comme un pourcentage qui danse la samba. Les 100 pas, pourquoi les faire? Y'a déjà tes semblables qui s'emballent devant l'Éden. Mais bon, qui rentre pas, les grandes tasses, c'est par ici. Même les bars ici, le temps une guise en parésie. Tu fais du grave ici, moi tu perds la tête. Dès que ça paye, ça fesse, y'a que ta sœur qu'en vaille la peine. Mais ça serait de l'inceste. Grande pustule, sens-tu que tu, hein? T'as pas l'argent et t'es pas tant fut-fut. Tu t'enfonces, t'aimerais assouvir tes pulsions des mentes. Tes buissons géants camouflent plus ta répulsion des gens. Shoot un ministre, shoot un ministre, shoot un ministre, shoot un ministre. Si tu veux quelqu'un, frelon, shoot un ministre. Tu fais peut-être un truc bien, frelon, shoot un ministre. Trop de corrompus, frère, défoule pas sur les bons. Trop de pédophiles, frère, défoule pas sur les bons. Shoot un ministre, shoot un ministre. Si tu veux quelqu'un, frelon, shoot un ministre. Oui. Pour tous les mecs en peuvent plus les faire. Arrêtez de tuer des innocents, putain.
Yeah,
grande pustule. Sans tutu, t'as du sang sur le cul. Franche pute nue, t'es pas tant fut, y'a du sang sur le mur.
Enfoiré. VALD Felon. Hein?
Épiphénomène.
Pour tous, je ne suis rien. Et cependant, si demain je lance une bombe ou assassine, je deviens le tout, l'homme qui existe. L'homme pour lequel d'innombrables générations de jurisconsultes ont préparé des châtiments, des prisons et des théories. Moi qui ne suis rien, je mettrai soudain en mouvement ce terrible mécanisme de flic, de secrétaire, de journaliste, d'avocat, de procureur, de geôlier, de voiture cellulaire. Et personne ne verra en moi un pauvre diable, mais un homme antisocial, l'ennemi qu'il faut écarter de la société.
Cité par F. Merjanov dans son ouvrage « Analecte de rien », cet extrait du roman « Les sept fous » de Roberto Arlt résume à lui seul de nombreuses vies. Celle dominine désespérée d'attendre quelque chose qui ne vient pas. La reconnaissance sociale, les amours heureuses, les envies inassouvies et les instants de tranquillité. L'insurrection. La guerre sociale, c'est-à-dire les mécanismes collectifs et ou individuels pour survivre à des conditions sociales sur lesquelles il n'y a aucune prise directe et aux dispositifs de coercition mis en place pour les faire accepter. La guerre sociale donc engendre son lot de morts. Paradoxalement, le suicide transforme le nihilisme en une croyance, cédant la mort et ses illusions libératrices. Si Jean Bilski n'est pas le premier à ne pas vouloir partir seul, Richard Durne ne sera sans doute pas le dernier à pratiquer cette forme particulière de suicide assisté. Le 27 mars 2002, Richard Durne tire sur les membres du conseil municipal de Nanterre. Il tue 8 personnes et en blesse 19 autres. Maîtrisé, il hurle « Tuez-moi ». Il est arrêté et déclare d'après la police « Je décidais d'en finir en tuant une mini-élite locale qui était le symbole et qui était les leaders et décideurs dans une ville que j'ai toujours exécrée. Je vais devenir un serial killer, un forcené qui tue. Pourquoi ? Parce que le frustré que je suis ne veut pas mourir seul, alors que j'ai eu une vie de merde. Je veux me sentir une fois puissant et libre. » Ainsi va aussi la guerre sociale. Il se défenestre lors de l'interrogatoire et meurt. Ladislav Klima, un suicidaire inachevé, mort de la tuberculose, rend hommage à ses anonymes qui crurent voir dans leurs gestes une illusoire libération.
L'hominine qui se respecte quitte la vie quand il veut. Les braves gens attendent tous, comme au bistrot, qu'on les mette à la porte.
Écoutez ça, vive Fantômage. Fantômage, tu n'existes pas.
Eh ben, c'est un bon titre, non?
Oui. Oh, ça casse pas les briques.
Il est formidable, je te dis, tu connais rien.
Oh, moi, ce que j'en dis, hein?
Au bal des lampistes, Fantômage, tu es le guignol de service, entraînant dans la ronde des scandales la farandole des gogos.
Tu ne trouves pas ça un peu ronflant, un peu pompier, chérie?
Ah, dis donc, occupe-toi de tes photos, hein.
Eh bien, moi, je trouve ça très bien.
Oui, enfin, oh, bon. Oh, mais il y a mieux, écoutez. Vous affirmez que la police veille. Non, commissaire Juve, elle ne veille pas, elle nous endort. Vous avez inventé l'homme au sans-visage pour ne pas perdre la face.
Ah, bien ça.
Mais on pouvait imaginer mieux. La crise du logement, Fantômage. La bourse qui baisse et le bifteck qui monte, Fantômage.
Non, ça c'est du tonnerre.
Tu m'avais bien demandé du social, hein?
Ah, ça, oui.
Eh ben, voilà. Les impôts et les forfaitures, Fantômage. Le salaud à tout faire, l'introuvable, l'insaisissable, le coupable de service, Fantômage. Alors, qu'est-ce que tu en penses, chérie?
Ah, tu me demandes mon avis maintenant? Ben, je trouve ça complètement idiot.
Et on prétend que l'amour est aveugle.
Rien, c'est sur Radio Kifik. Le mercredi à 12h et le dimanche à 19h.